D'accord, ça correspond bien.
Voilà, voilà. Exactement.
Super.
Ouais.
Super. Voilà.
Merci.
Et puis ça, c'est votre ticket.
Merci.
Ça va, pas trop fatigué?
Ah oui, on en parlait tout à l'heure. Le mardi, c'était une journée.
Il y a pas des moments où il y a un peu d'automatique.
Tu peux pas.
Non, je dis ça comme ça parce que.
Au moment où tu peux remettre à l'activité.
Oui.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Je me présente, je suis Madame Dumonté, responsable de la Maison des Associations. On est content de vous accueillir ce soir pour la deuxième fois, deuxième année consécutive pour ce café débat. Café philo plutôt. Donc voilà, on espère que ça ne sera pas la dernière. Je voulais juste vous souhaiter un bon débat. Remercier Madame Cano pour son application, parce que sans elle, on ne serait pas là quand même. Donc voilà. Et puis profitez, n'hésitez pas à revenir à la Maison des Associations. On essaye de la faire bouger un peu plus au-delà du café philo. Et voilà, c'est tout. Je vous laisse profiter. Vous voulez dire un petit mot aussi?
Vous m'entendez? Juste pour dire que c'est effectivement la deuxième année que nous venons à la source et que nous étions tous très impatients de revenir parce qu'on garde un souvenir excellent du café philo de l'année dernière qui avait été vraiment passionnant. Je vois Nicolas Doré qui va animer l'office du chef parce que je crois qu'on s'était tous régalés, donc on avait vraiment hâte de vous retrouver. Et je passe la parole à Nicolas qui expliquera si, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont jamais venus à un café philo. Alors je vais laisser Nicolas expliquer le déroulement.
Merci. Bonsoir à toutes et à tous.
J'ai l'impression que le micro fonctionne pas.
Prenez-le, sinon je vais changer de pied. J'ai
essayé de parler au plus près du micro. Ça marche?
Oui,
ça marche.
Vous avez une bonne voix, ça va.
Je crois qu'il est sur l'orientation.
Tu nous mets là, c'est ça? Plutôt par là? Non?
Celui-là, je vais changer
les pieds
de lui.
Bon. Je ne fais pas mon micro pour l'instant. Hein, mais... Bonsoir à toutes et à tous. Ouais, effectivement, comme disait Marie-France, on est vraiment ravis de revenir vous voir ici à la source et donc de délocaliser un petit peu notre café philo qui habituellement donc, se tient chaque mois. Le deuxième mardi de chaque mois au lycée Jean Zay, en centre-ville d'Orléans. Je me présente très rapidement, donc je suis Nicolas Déré, je suis professeur de philosophie au lycée Jean Zay pour l'actualité de mon service, et puis je fais quelques cours par ailleurs, juste à côté. J'y étais encore hier à l'Institut de formation en soins infirmiers de la Source et du Nord, et puis quelques cours également à l'Université d'Orléans. Depuis quelques années, donc, s'organise un café philo. Comment est-ce que ça fonctionne? Ce n'est pas une conférence. Des conférences, on en propose. Je vous la présenterai la prochaine. Donc, ce n'est pas une conférence. Et le thème de ce temps de débat, d'échange, n'est pas fixé à l'avance. C'est vous qui allez le déterminer. C'est-à-dire que dans un premier moment, vous pouvez proposer des questions qui vous semblent pertinentes, ou en tout cas vous avez envie de soumettre à la discussion, des thématiques, c'est pas forcément sous la forme d'une question, hein. Donc des questions, des thématiques, on les relève, Marie-France va les relever, et puis ensuite on procède assez rapidement à un vote de manière très, très libre, pour savoir quelles questions on a envie de voir traiter ce soir, vous et nous tous ensemble. Vous pouvez voter pour autant de questions que vous souhaitez, dans un premier temps, si s'il y a plusieurs thématiques qui vous intéressent. Et puis si ensuite il y a deux questions qui sont très proches l'une de l'autre ou qui sont en égalité, on procède à un deuxième tour de vote, cette fois-ci sélectif, pour lancer le débat. Et comme son nom l'indique, donc c'est un café philo. Donc il va y avoir, après notre temps d'échange, une collation qui est offerte par l'association Philomania. Et comme son nom l'indique, c'est un café philo, donc on va essayer de philosopher ensemble. Vraiment, c'est un temps d'échange. Je suis là pour simplement à la fois opérer quelques synthèses, ouvrir quelques pistes, mais c'est surtout vous et nous tous ensemble qui allons construire la réflexion. Il n'y a pas d'obligation de prendre la parole si vous ne souhaitez pas, mais si vous souhaitez prendre la parole, évidemment, ça sera extrêmement profitable à toutes et à tous. Voilà pour la présentation. Donc, je veux dire, l'animateur que je suis, moi j'avance un peu sans filet, hein, puisque je ne sais pas du tout quel est le thème sur lequel on va travailler et on va discuter. Et c'est très bien, parce que ni vous ni moi, on a pu préparer de notre côté. Et donc comme ça, c'est beaucoup plus libre et beaucoup plus fluide pour les échanges. Alors, je ne sais pas si vous avez des propositions de thématiques, des questions qui vous viendraient à l'esprit. Quelques habitués du café philo qui sont venus jusqu'ici. Mais si vous découvrez le café philo, n'hésitez pas. Soit dans l'air du temps, soit des questions qui n'ont pas absolument un lien direct avec l'actualité. On n'est pas sur un café non plus d'actualité. Je vous laisse le temps de la réflexion.
Y a-t-il une vie après le travail ?
Y a-t-il une vie après le travail ? Y a-t-il une vie après le travail ? On peut aussi formuler à la réciproque, y a-t-il une vie avant le travail ?
L'autre.
L'autre. Très bien. Ah, ça me convient. L'autre. Ouais. Alors, vous avez 4 heures. Allez. Je sais pas trop.
Qu'est-ce que l'amour ?
Qu'est-ce que l'amour ? Alors, y a-t-il une vie après le travail ? L'autre. Qu'est-ce que l'amour ? C'est pour ça qu'on puisse y répondre ensemble ce soir. N'hésitez pas, hein, vraiment. Je vous laisse encore une petite minute. Il faut avoir des sujets comme ça, des questions qui vous viennent.
Moi, je voudrais savoir quelle est la place de la philosophie dans notre société.
La place de la philosophie dans notre société, aujourd'hui.
Aujourd'hui.
Donc, quelle est la place, quel est le rôle de la philosophie aujourd'hui ? Alors, c'est une question qui a été traitée il y a peu. Hein.
Oui.
Alors, c'était pas moi, c'était Laurence, parce qu'on est en alternance entre Laurence Lacroix et moi. Merci. Et qui a été traitée, mais c'était au lycée Janzet fin d'année dernière, je crois. Mais pourquoi pas, hein. Bon, je rappelle, hein, donc, y a-t-il une vie avant le travail ? L'autre, qu'est-ce que l'amour ?
Qu'elle avait dit après le
travail. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Ah bon. Puisque vous n'avez pas le même centre d'intérêt.
Voilà. Et quelle est la place, le rôle de la philosophie aujourd'hui dans notre société ?
Et la nécessité.
Donc sa nécessité ou
pas.
Ou son inutilité. Oui, madame.
Peut-on appliquer le stoïcisme dans notre société ?
Peut-on appliquer le stoïcisme ? Alors, je Je vais un peu formuler un peu autrement parce que ça mérite, ça mériterait que chacun et chacune sache un peu près de quoi il s'agit lorsqu'on parle de stoïcisme. Peut-on être stoïcien aujourd'hui, c'est-à-dire peut-on mettre les événements à distance, c'est ça un peu le stoïcisme, essayer d'être le plus serein possible en mettant tous les événements les plus négatifs possibles à distance. Peut-on donc mettre à distance chaque événement aujourd'hui dans le monde tel qu'il va? Vous n'avez pas d'autres propositions?
Non, c'est bon.
Donc on procède à un vote, encore une fois, informel, de manière la plus cordiale possible, et vous pouvez, comme je vous l'ai indiqué, voter pour autant de thématiques que vous souhaitez. Si toutes vous intéressent, bien, vous votez à chaque fois. Donc la première question, c'était, monsieur, y a-t-il une vie après le travail? Y a-t-il une vie après le travail? Donc, qui est-ce que vous souhaiterez... On débatte de cette question ce soir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Deuxième proposition formulée par madame, l'autre, dans toute sa dimension, enfin, toute sa polysémie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. La troisième question, c'était madame, je crois, qu'est-ce que l'amour? 1, 2, 3, 4, 4. Ça reste un secret. Voilà. C'est peut-être mieux ainsi. Dans l'ordre, madame avait proposé la question sur la philosophie. Quelle est la place ou quel est le rôle de la philosophie aujourd'hui dans notre société? À quoi sert la philosophie? Dernière question, peut-on être stoïcien aujourd'hui? Peut-on appliquer les principes du stoïcisme aujourd'hui? Être sage comme un stoïcien dans la société qui est la nôtre? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Allez, on a trois qui se tiennent à... On a un mouchoir de poche, hein, c'est bien ça, Marie-France. Peut-on être stoïcien aujourd'hui? Alors peut-être qu'on va vous laisser un peu la parole. Non, mais voilà, c'est pas un cours de philo, hein, c'est pas, on va pas faire un cours sur le stoïcisme, ça n'aurait pas du tout d'intérêt, c'est pas le coup de jet, c'est essayer de... D'abord, essayez de nous expliquer ce que vous avez en tête dans cette question, et puis finalement, pourquoi est-ce que vous l'avez suggéré? Finalement, qu'est-ce qui vous a motivé à la proposer à la discussion?
J'ai suggéré cette problématique parce que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je suis une ancienne élève de votre classe,
oui.
Et on avait étudié le stoïcisme en terminale, et je me rappelle que ce cours m'avait vraiment intriguée, intéressée. Et jusqu'à aujourd'hui, parfois, je me dis, mais est-ce que je peux rester stoïque dans telle ou telle situation? Parfois, j'essaye de l'être, et en fait, j'ai l'impression que c'est impossible de parfois rester à distance de certaines émotions ou de certaines situations. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai demandé, peut-on rester stoïque dans notre société?
Très bien, merci. Terminal littéraire. J'ai envie de te poser une question linéaire avant de... Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui c'est peut-être plus difficile qu'autrefois de résister à toutes les tentations qui nous sont proposer en termes de marchandisation des modes de vie, de, d'accès à la consommation, etc. Comme on dit, est-ce que vous avez l'impression qu'on a plus de mal, qu'on aurait peut-être plus de difficultés ou pas, hein, aujourd'hui à mettre à distance tous les événements qui nous sont donnés à vivre, positifs ou négatifs, plutôt que dans cette école du stoïcisme, je vais quand même en parler un peu ensuite, qui date de l'Antiquité grecque, on est à Athènes, dans un monde qui n'a pas grand-chose à voir avec le nôtre sur tous les plans, technique, politique, social. Donc, autrement dit, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait encore se servir de cette sagesse lointaine, d'accord, qui date d'au moins le 4e siècle avant Jésus-Christ, pour essayer d'organiser notre vie, là, à Orléans, un 24 janvier 2023, à la source. Oui, monsieur.
Moi, je pense que ça peut... Enfin, je dis pas que c'est facile, mais ça peut, ça pourrait servir à... pas devenir fou entre guillemets quoi par rapport enfin moi j'ai peut-être une vision un peu négative du monde extérieur quoi du système dans lequel on vit et parfois enfin je pense que c'est le stoïcisme c'est quand même une bonne solution pour essayer de parfois mettre un peu de ça de côté même si on doit y penser hein mais Pour moi, il ne faut pas non plus être trop stoïque, quoi. Mais je crois que parfois, on a besoin de l'aide, quoi. Parce que c'est, le stoïcisme, c'est bien mettre toutes les choses sur lesquelles on ne peut pas agir de côté, c'est ça?
Oui, alors je vais me permettre, hein, je ne vais pas jouer au professeur de philosophie, c'est vraiment pas l'objet de notre rencontre.
Ouais, ouais,
mais... Ah, mais comme vous avez introduit un courant philosophique... à la discussion, je ferai quand même de l'éclairer, de la manière la plus simple possible pour essayer de présenter ce courant philosophique. Donc, c'est une école philosophique qui est née officiellement à Athènes au 4e siècle avant Jésus-Christ, sous un portique, qu'on appelle aussi l'école dite du portique, et portique en grec ça se dit stoa, d'où le stoïcisme. C'est une école qui a duré plus de 1000 ans officiellement, oui c'est ça, ouais, un peu plus de 1000 ans, et qui ensuite a infusé, j'allais dire, les trois monothéismes, qui sont les nôtres, et puis toute une série de pensées qu'on retrouve aujourd'hui dans des stratégies de développement personnel. Souvent, quand on feuillette un peu des bouquins de développement personnel dans telle ou telle librairie, en fait, on s'aperçoit que, sous forme un peu moderne, on retrouve les bons vieux principes du stoïcisme, de l'épicurisme, enfin bref, des sagesses antiques. Pour dire d'un mot, le stoïcisme, il opère un partage des choses. C'est ainsi que commence par exemple le manuel d'Épictète, qui est l'un des représentants de ce courant. Un partage des choses entre deux types de choses, celles qui dépendent de moi et celles qui n'en dépendent pas. Ou celles qui sont à ma portée, celles qui ne sont pas à ma portée. Ou pour le traduire de manière encore plus simple, celles sur lesquelles je peux agir et celles sur lesquelles je ne peux pas agir. Et en nous disant que si on confond, si on ne maintient pas ce partage des choses, ouais, cette frontière, vous voyez, qui est vraiment nette, d'accord, si on passe la frontière, si on ne la maintient pas, nous serons malheureux, nous condamnerons nous-mêmes au malheur et à la tristesse, au ressentiment, bref, à toutes les passions tristes, toutes les passions négatives. Quelles sont les choses qui ne dépendent pas de moi? Excusez-moi, je me transforme en prof de philo. Ce sur quoi je n'ai pas de pouvoir, pour le dire très vite, mon corps, pour les stoïciens, mon corps, il échappe à ma puissance d'intervention, il échappe à mon pouvoir. Évidemment, je peux faire quelques modifications. Je peux faire un régime, je peux pratiquer un sport, je peux muscler telle ou telle partie de mon corps, je peux tenir mon hygiène ou au contraire avoir un mode de vie qui met en péril mon corps, mais mon corps j'en hérite et il est destiné à la vieillesse, il est destiné à la mort. Donc finalement, mon corps est un destin. Ce qui ne dépend pas de moi, nous disent les stoïciens, ma réputation, ma reconnaissance, ma réputation, elle n'est pas liée à ce que je fais, ce que je ne fais pas, et elle est liée à ce que les autres estiment, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Autrement dit, ma réputation, c'est vous. C'est pas moi. Et je ne pourrais rien faire pour modifier une bonne ou mauvaise réputation. Ou tout ce que je pourrais tenter de faire, ça n'aura de sens que par rapport au jugement que vous voudrez bien porter. Ce qui n'est pas de moi, j'essaie d'aller un peu plus vite, c'est mon pouvoir. Mon pouvoir, je ne parle pas forcément d'un pouvoir politique, hein, mon pouvoir d'action sur et avec les autres. Le pouvoir que j'ai sur quelqu'un, c'est l'autre qui l'a sur moi. Je le dis de manière plus simple, on le voit avec, par exemple, la question des grèves, des manifestations qui sont aujourd'hui dans l'actualité. Dès lors que des employés se mettent en grève, on comprend finalement qui a le pouvoir dans l'entreprise. Celui qui a le pouvoir dans l'entreprise, ce n'est pas l'employeur, qui a le pouvoir de recruter, de licencier, ça sert. Ceux qui ont le pouvoir dans l'entreprise sont ceux qui font marcher l'entreprise, c'est-à-dire ceux qui bossent tous les jours. Donc finalement, on voit bien que le pouvoir que je crois avoir sur l'autre, finalement, c'est l'autre qui l'a, puisqu'il suffirait que l'autre refuse d'obéir ou fasse autre chose que ce que je lui demande de faire pour que, finalement, mes paroles restent vaines et que mes ordres restent lettre morte. Mon corps, mon pouvoir, ma réputation, mon avoir, disent les stoïciens, ma richesse, ma pauvreté, ça ne dépend pas de moi. C'est soit lié à un héritage, heureux ou malheureux, bénéfique ou maléfique, fils d'eux. Donc soit lié à l'héritage, soit lié, on est avec une pensée qui s'ancre dans un système esclavagiste. Soit lié à un système social, vous êtes né citoyen, vous êtes né citoyenne, vous êtes né métèque, vous êtes né esclave, et voilà. Soit lié, laissons l'esclavage de côté, à un système social qui reconnaît telle ou telle compétence ou qui ne reconnaît pas telle ou telle compétence. Pour le dire très simplement, me concernant, je ne peux tirer subsistance de la philosophie, c'est-à-dire un salaire, qui finance mes courses et qui remplit mon caddie, je ne peux tirer subsistance de la philosophie que dans un pays qui reconnaît la philosophie comme étant l'une des disciplines qu'on enseigne à l'école. Si j'étais dans un autre pays où la philosophie n'existe pas officiellement en tant que discipline scolaire, en fait, je ferais un autre métier. Bref, j'aurais dû gagner ma vie autrement. Donc finalement, ma richesse, ma pauvreté, ça dépend d'autres facteurs que le mien. Et si on veut élargir le spectre, tout cela, parce que le but, évidemment, c'est d'élargir, ce qui ne dépend pas de moi, c'est-à-dire ce sur quoi je n'ai pas de pouvoir, finalement, c'est tout ce qui m'arrive. C'est tout ce qui m'arrive, c'est ce que les stoïciens appellent le destin. Il y a une croyance en un destin. On va peut-être pouvoir aborder cette question. Donc, le destin, c'est ce que d'autres appelleront la fortune, dans des vieux termes, sans vieillir, la fortune, c'est-à-dire le cours du monde. Je ne sais pas moi, un virus qui part de quelque part, en Chine peut-être, et qui vient bousculer l'ordre mondial, une guerre déclarée aux confins de l'Europe. Bref, le cours du monde tel qu'il est, et que je me prends, j'allais dire, de manière un peu vulgaire, un peu grossière, en pleine face, quoi. Je dois affronter l'inflation, une réforme des retraites qui va peut-être être adoptée et qui fera travailler jusqu'à une certaine année, etc., etc. Donc finalement, rien n'est en mon pouvoir. Rien ne dépend de moi. Voilà, je suis impuissant face à tout ce qui m'arrive. Ça, c'est la leçon des stoïciens. Ça, c'est la partie là-bas. Et puis, il y a ce qui dépend de moi. Vous allez voir, c'est pas grand chose, mais en fait, c'est tout. Et c'est pas un jeu de mots, c'est pas un paradoxe, c'est pas. Voilà, c'est vraiment des leçons de vie. Ce qui dépend de moi, ce n'est pas tout ce qui m'arrive. Ce qui dépend de moi, c'est le jugement, l'évaluation, la façon dont je vais juger tout ce qui m'arrive. Autrement dit, ce qui dépend de moi, c'est mes pensées. Mon corps, c'est pas moi. Moi, qu'est-ce que je suis? Je suis une pensée en acte, je suis un jugement en acte qui va porter son regard sur ce qu'il a à vivre. Vous avez je la connais même par cœur, cet aphorisme d'Épictète dans le manuel. Épictète était esclave. Donc, il a une vie un peu compliquée. Alors, Épictète nous dit, mais la mort n'a rien de terrible. La mort n'a rien de terrible. Ce qui la rend terrible, c'est le jugement que tu portes sur la mort, qu'elle est terrible. En d'autres termes, la mort en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. C'est un phénomène naturel, c'est même une nécessité. Seul ce qui vit peut et doit mourir. Et tout ce qui vit doit mourir. La mort d'un inconnu ne m'affecte peu. La mort d'un ennemi pourrait me réjouir. Il y a pourrait. La mort d'un proche m'affecte terriblement. Et donc finalement, ce n'est pas la mort en elle-même qui est terrible. C'est le jugement que je porte sur la mort qui soit la rend indifférente. Je ne sais pas, des millions d'animaux qu'on tue chaque jour pour nous alimenter. On peut y être indifférent. Donc soit donc me rend indifférent, soit au contraire peut me réjouir. Cas très exceptionnel, soit m'affecte terriblement s'il s'agit de la mort de quelqu'un qui m'est très cher. Et donc finalement, ma liberté, mon bonheur, et finalement ma dignité, disent les stoïciens, elle n'est pas du côté de tout ce qui pourrait m'arriver, elle est du côté de la façon dont je vais juger, évaluer, donner de la valeur à tout ce qui m'arrive. Et donc, si on veut reprendre deux exemples contemporains, et puis après je vais terminer avec cette présentation, j'essaie de la faire la plus rapide qui soit. La pandémie nous a touchés, qui nous touche encore, n'est en elle-même ni bonne ni mauvaise. Le virus, il n'est pas mal intentionné, il est ce qu'il est, c'est un virus. D'accord ? La mort de millions de personnes à travers le monde n'est ni bonne ni mauvaise. Elle ne le devient, mauvaise ou bonne, que pour moi qui en suis soit directement infecté, si c'est mon propre corps qui est touché, soit s'il s'agit de quelques personnes auxquelles je tiens profondément. La guerre en Ukraine n'est ni bonne ni mauvaise. Elle peut être bonne pour celui qui la déclare. Elle peut être bonne pour celui qui la déclare et qui la gagnerait. Dans cette hypothèse, que je n'espère pas, l'Ukraine deviendrait russe. Elle peut être mauvaise pour celui qui l'a subi directement. Toutes ces victimes innocentes du peuple ukrainien. Elle peut être mauvaise pour celui qui l'a subi indirectement, nous-mêmes, par les effets économiques et sociaux collatéraux de cette guerre. Mais en elle-même, d'accord ? Elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est ce qu'elle est. Et finalement, la clé du stoïcisme, pour reprendre ce qui vous animait dans votre question, la clé du stoïcisme, elle consiste à nous dire, ne cherche pas à transformer le monde, parce que tu n'y arriveras pas, tu es impuissant, nous sommes impuissants, le monde, il est ce qu'il est. Il y a des guerres, il y a de l'esclavage, il y a des riches, il y a des très pauvres, il y a des innocents qui souffrent et qui meurent tous les jours. Ne cherche pas à changer tout ça, c'est comme ça. Essaye de te réformer toi-même, c'est-à-dire de changer ton regard sur le monde, de changer ton jugement. Essaye donc de te réformer toi-même, et tu seras toujours libre, puisque rien ne t'affectera, puisque tu accepteras toujours l'événement tel qu'il arrive, tu seras toujours libre, et tu seras toujours heureux. Quoi qu'il arrive. C'est ça le stoïcisme, dans sa expression, j'allais dire, la plus... la plus simple, peut-être. En tout cas, telle que cette pensée est formulée dès l'Antiquité, et qu'on retrouve encore aujourd'hui, encore une fois, je vous dis, sous forme de conseil de vie.
Voilà. Oui. Suite à ça, ce que j'entends surtout, c'est c'est la nécessité de prendre distance. D'éviter la réaction immédiate. Or, la question posée vient par rapport à notre société actuelle.
Oui, c'est ça, la question, c'est est-ce qu'on peut être aujourd'hui, voilà, dans cette attitude.
Alors, et voilà, il me semble qu'un des aspects de notre société actuelle qui pose problème par rapport à cette démarche, c'est justement l'immédiateté. C'est l'aspect pulsionnel dans tout ce qui nous sollicite. C'est la nécessité de répondre quasi immédiatement, de réagir immédiatement à la situation qui nous est proposée. Mais c'est aussi notre implication dans ce système, c'est-à-dire que ce que je souhaite avoir, maintenant, je peux l'avoir, si ce n'est immédiatement, et encore en se faisant livrer, je peux avoir envie tout d'un coup de consommer une pizza et je vais avoir la pizza qui va arriver, ou si c'est une marchandise à faire venir, maintenant, je peux espérer une livraison le lendemain. Donc, comme dit, cette prise de position de « je ressens quelque chose, je prends de la distance et j'essaie de comprendre un peu comment moi, je me situe dans ce qui arrive », ce n'est plus ça, c'est « j'ai envie de » ou « j'ai peur de » et je réagis. Je m'arrête.
Oui. Donc, il y a deux éléments hein, que tu as mentionnés. Il y a la question de l'immédiateté, sur laquelle tu as construit ton argumentation. Puis un deuxième point, qui est aussi la possibilité technique que tu as évoqué à travers tes exemples de livraison à domicile type Amazon, quoi. La possibilité technique, finalement, d'avoir demain ou dans l'instant, là, par un claquement de doigts ou par un clic sur un site quelconque, la possibilité technique d'avoir demain ce que je désire. Autrement dit, comme si finalement la sagesse stoïcienne qui consiste à dire « attention, il y a le monde, il est là, il ne dépend pas de toi, tu ne pourras rien faire pour agir sur », comme si finalement la technique aujourd'hui nous disait « mais non, en fait, tu as tout faux, Épictète, tu as tout faux, Sénèque, enfin moi je ne vais pas faire tous les bons propres, vous avez tout faux, il suffit de cliquer pour transformer le monde. Je veux une pizza, j'ai une pizza. Je veux ma commande sur Amazon, le lendemain je l'ai. Je veux guérir, je guéris. Je veux partir à New York, je pars à New York. Je veux partir sur Mars, je pars sur Mars. Oui ?
Oui, pour répondre à la question, donc peut-on rester stoïque aujourd'hui ? Il me semble que la question non plus de l'immédiateté, mais des médias est importante. Parce qu'il y a 400 ans avant Jésus-Christ, donc il y avait beaucoup moins de médias que maintenant. Et donc, du coup, il y avait moins d'informations colportées. S'il y a moins d'informations, on peut penser que sur une somme d'informations, il n'y en a qu'une où elle serait complètement stoïque. Déjà, premièrement, je m'en fiche peut-être, mais à certaines où ce serait peut-être plus compliqué d'être stoïque. Donc, la quantité d'informations. Et puis, pour une information elle-même, aujourd'hui, beaucoup peuvent être amplifiées, redondantes, amplifiées, voire parfois même présentées d'une certaine manière, qui pourrait faire qu'on ait beaucoup de mal à rester stoïque. Donc du coup, moi, mon premier point de vue, là, ce qui va peut-être évoluer, c'est que ça me paraît plus difficile de rester stoïque aujourd'hui qu'à 400 ans. Encore, je ne dis pas à 400 ans, mais c'est mon premier élément.
Ouais, sur finalement, le degré d'information auquel on est exposé en permanence, je veux dire 24 heures sur 24. Si je suis Épictète et que je vis au 1er siècle après Jésus-Christ, et qu'il y a une révolution en Iran avec des femmes qui se font maltraiter, en fait, je ne le sais pas. Moi, je suis à Orléans en 2023, j'ai jamais mis les pieds en Iran, je pense que je n'irai pas demain. Et en fait, je peux m'informer en live, là, direct live, sur l'évolution de la répression de cette révolte en Iran. Bien sûr.
Je voulais dire, rejoins ce que monsieur disait et monsieur, et moi je pensais à Internet. On subit la dictature d'Internet, là on n'a pas le choix, donc c'est quand même difficile de rester stoïque. À partir du moment où on a conscience des choses et du pouvoir de ces choses sur nos vies, et elles transforment notre vie vraiment en profondeur, c'est perturbant, et on n'a vraiment pas le choix. C'est une vraie dictature. Donc un clic par-ci, par-là, pour certaines choses, bon, d'accord, pardon, mais là, c'est vraiment une mainmise sur nos vies. Il y a d'autres, enfin, déjà, on ne peut plus rien faire, pratiquement, sans Internet.
Ah, vous parlez de dictature.
Ça, c'est une dictature, c'est une dictature pour moi. Et soudaine, brutale, depuis la pandémie, ça c'est devenu exponentiel. Donc, comment rester stoïque par rapport à cela? That is the question.
Très bien, je vous laisse peut-être réagir.
Ben justement, je voulais vous répondre tous les deux par rapport à ça. Je sais qu'il y a plusieurs, enfin, il y a énormément de personnes aujourd'hui qui décident justement, qui font le choix de s'éloigner d'Internet, de s'éloigner des médias justement, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rester stoïques face à tout cet amas d'informations. Et du coup, voilà, ils font le choix de prendre de la distance en fait face à toutes ces informations. Alors après, c'est vrai effectivement que sur Internet, c'est difficile de ne pas consommer Internet, mais après, il y a toujours un moyen de s'éloigner des sites d'information, donc comme, je sais pas, Twitter, etc., mais enfin, toutes les plateformes d'information, il y a toujours un moyen de s'en écarter pour pouvoir prendre de la distance et rester le plus stoïque possible. En fait.
Oui, mais...
Allez-y.
Je veux simplement dire que je ne parlais pas de Facebook ou de Twitter, oui. Qui sont des plus ou des moins, enfin, ça dépend de l'intérêt des gens. Je parlais de ce qui devient, pas nécessaire, mais ce qui nous est imposé comme nécessaire dans nos vies maintenant. Et là, on n'a pas le choix. On ne peut pas se mettre à l'écart de tout sur Internet, ce n'est pas possible. Faites votre déclaration d'impôt maintenant, ou je ne sais quoi, vous êtes obligé de passer par Internet. Donc, c'est un exemple que je trouve très large, parce que ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup de domaines. Donc certains domaines peuvent être nécessaires, je veux bien l'admettre, ça fait partie du monde qui change, qui se transforme, de la technologie, etc. Mais il y a des choses non. Donc il y a une dictature très forte là.
Oui. Monsieur, oui.
Juste pour réagir sur la question, enfin, moi je crois que c'est une question de gestion du temps aussi, puisqu'on. Alors sur la partie information, c'est vrai qu'on on assiste depuis quelques années à effectivement une sorte. Il y a la fast fashion, il y a la fast information, et puis de plus en plus, enfin, je ne sais pas si vous avez vu dans les kiosques, il y a ce qu'on appelle les book magazines, enfin, ce sont souvent des trimestriels. Il y a un essor là, puisqu'il y en a des dizaines. Donc c'est vraiment une manière de voir l'actualité et de voir l'information avec beaucoup plus de recul. Hein. On prend le temps. Enfin, je crois que oui, c'est ralentir. Hein, c'est un peu le maître mot aussi qu'on entend souvent aujourd'hui. Et puis ça passe par la gestion aussi après personnelle, pareil, de développement personnel. Il y a tout un tas de mode actuellement sur la méditation, sur le fait de comment reprendre le contrôle sur son smartphone en coupant les notifications, etc.
Oui.
Je voulais prendre la parole.
Ouais.
Il me semble que quand on dit qu'Internet, la civilisation actuelle nous impose, c'est une forme de dictature, nous impose un certain nombre de choses. Je pense qu'on a toujours eu, du temps des anciens, l'esclavage, c'était une forme, c'était quelque chose de très... Enfin, on imposait un rythme de vie à des gens. Donc je pense qu'il faut... Moi, j'ai tendance à dire que ce soit Internet ou tout à l'heure, on parlait du téléphone, c'est des outils et ça dépend de la façon dont on les utilise. Notre déclaration d'impôt, avant, il fallait la faire de toute façon. On a toujours été obligé de faire notre déclaration d'impôt, quel que soit le moyen utilisé. Et ça peut être très contraignant de remplir des cases avec un crayon quand on est, par exemple, on a du mal à écrire, ou je ne sais pas, bon, enfin, pour différentes raisons. Donc, il y a toujours eu des choses qui nous ont été imposées. Et donc, ça, c'était la première chose. Deuxième élément, moi, j'ai un peu de mal à admettre que on ne peut rien changer dans le monde.
Ça, c'est un autre élément de la discussion. La première question, c'est est-ce qu'on peut ? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'on doit ? Est-ce que c'est louable ou profitable de garder cette distinction que les stoïciens nous invitent à opérer entre ce qui ne dépend pas de moi, le monde, quoi, et puis moi, j'essaie de me réformer moi-même, mais je ne vais surtout pas toucher au monde parce que de toute façon, je n'y arriverai pas.
Oui, donc moi je partage pas trop cette façon de voir, mais bon, je pensais être plus stoïcien que ça, mais en fait, tout compté d'après ce que je suis peut-être moi.
Bah,
Voilà, j'avais tendance à dire souvent à mon épouse qui a tendance à s'inquiéter pour tout et pour plein de choses. T'y peux rien, donc tu laisses tomber, c'est pas ta responsabilité, c'est pas t'y peux rien, donc laisse tomber. Mais n'empêche qu'il y a des tas de choses auxquelles on peut un petit peu quand même, mais il faut qu'on fasse quelque chose, ne serait-ce que. Je veux dire, quand on voit l'état dans lequel on a mis la Terre, il faut peut-être qu'on fasse quelque chose pour. On a fait des choses collectivement, alors c'est peut-être pas individuellement, c'est peut-être ça la différence. C'est la différence entre l'individu et le collectif, l'individuel et le collectif. Si la seule façon de pas partir en retraite à 64 ans, pour ceux qui travaillent et qui n'ont pas passé cet âge, encore, la seule façon, c'est pas individuellement, c'est avec le collectivement qui peuvent éventuellement faire changer les choses. Voilà. Individuellement, ce qu'ils peuvent faire, c'est aller dans un pays où la retraite est à 60 ans, mais il n'y en a plus beaucoup. Hein. Voilà, je m'arrête là.
Vous gagnez beaucoup d'argent pour ne pas en avoir besoin. Oui. Si je reviens à la définition que tu donnais tout à l'heure, enfin une partie de cette définition où à partir du moment où je ne peux pas agir sur quelque chose, je le subis, comme par exemple le vieillissement de mon corps, ça m'incite à être stoïque. Si je prends un autre exemple, c'est par exemple, on parlait tout à l'heure, la guerre en Ukraine. Je peux me dire effectivement, puisque moi-même je ne peux pas agir dessus, je suis stoïque, ça ne m'affecte pas beaucoup. Et pourtant, chaque fois que j'écoute les informations, ça m'affecte. Ça me peine, je veux dire, j'ai une certaine souffrance d'entendre que des femmes et des enfants meurent. Et donc, j'allais dire que si je me dis que je ne peux pas agir sur la chose, cela ne m'affecte pas, je suis stoïque, je pense que c'est du domaine de la raison. Et ce que je voulais dire, c'est que là, quand j'écoute comme les informations, par exemple la guerre en Ukraine, même si je me dis que raisonnablement, je ne peux pas agir dessus, ça m'affecte, j'ai comme une souffrance, et ça, on est du domaine de l'émotionnel. Donc, du coup, je pense qu'il y a deux secteurs. Est-ce qu'on peut être stoïque par la raison et peut-être pas par le cœur, par exemple ?
Ouais. Alors, je me permets juste deux petites remarques par rapport à ce qui a été dit. Effectivement, l'un des éléments principaux que vous avez mentionné, avec des exemples divers et variés, c'est finalement qu'aujourd'hui, nous serions pris dans une sorte de mécanique entre guillemets infernale qui nous expose à toute une série d'émotions positives ou négatives, d'informations. Bref, on est dans la grande machine à laver de l'information permanente et qu'on a bien du mal finalement à retrouver la maîtrise de notre existence, la souveraineté, le gouvernement de soi-même. C'est ça, sans doute possible, ça nécessite un effort qui est considérable. Et puis, effectivement, il y a une sorte de développement systémique des moyens technologiques qui nous libèrent et nous aliènent en même temps. Vous avez pris l'exemple de l'Internet, on aurait pu prendre l'exemple de la voiture. Est-ce que je suis dépendant ? Est-ce que je suis maître de ma voiture ? Ou est-ce que j'en dépends ? Oui. Je vous laisse la parole un instant. Et puis ensuite, vraiment un instant, je faisais juste une petite synthèse. Et puis vous avez emmené la discussion vers un autre élément tout aussi important, c'est sur la valeur même du stoïcisme, sur sa légitimité. Est-ce qu'il est souhaitable de suivre ce type de sagesse, de conseil de vie ? Peut-être qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça serait une sorte d'appel à la passivité, un peu, en disant, en fait, on n'y peut rien, c'est comme ça, l'esclavage, voilà, il y a l'esclavage. À ce moment-là, on ne se mobilise pas pour grand-chose, ni pour la réforme, ni contre la réforme des retraites, et on peut être pour, dans cette assemblée, ou contre, ni pour la cause des femmes, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'homophobie. On va dire, c'est comme ça, point. Et donc, on a l'impression que c'est une sorte de passivité, de résignation, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, de résignation qui est peut-être un petit peu trop excessive. Monsieur.
Madame, pardon. Sur la façon de voir le monsieur, et puis là, effectivement, vous parlez de passivité. Moi, je voulais justement ramener à ce propos. Je voulais vous demander si ça ne ramenait pas l'égoïsme, en fait. Oui. Et le fait d'être heureux personnellement, c'est un bien-être personnel, mais on vit en société. Et du coup,
Est-ce que c'est s'isoler? Est-ce que c'est se retrancher? Et est-ce que ça ne rejoint pas l'égoïsme?
Très bien, je ne réponds pas pour l'instant. Sinon, on passe à ça. Peut-être, attends, mettez bien votre micro pour qu'on puisse bien vous entendre.
Oui, allô.
Donc juste pour revenir sur l'Ukraine et puis donc l'action qu'on peut avoir dessus, donc déjà on a parlé des impôts, donc les impôts que chaque Français paye, donc ça va dans l'armement, donc l'armement qui est ensuite envoyé en Ukraine, donc on peut dire qu'on agit malgré tout, même indirectement, sur ce point-là, donc on a quand même une action en Ukraine, en tant que citoyen français. Et puis,
juste une parenthèse, je paye les impôts, mais je n'ai pas la main pour orienter mes impôts.
Oui, donc ça,
je ne peux pas choisir, par exemple, si on disait que les impôts financent un sous-marin nucléaire, je ne peux pas dire non.
Oui, après, ça serait une chose à améliorer à l'avenir.
Le vote démocratique.
Oui, mais je ne peux pas. Non, très bien, mais quel que soit le gouvernement, droite, gauche, ici, je m'en fiche. Je ne peux pas orienter, moi, citoyen, l'argent, ma contribution que j'ai par le vote. Mais je ne peux pas dire, aujourd'hui, voilà, on va mettre tant de milliards dans l'armée du futur. Je ne peux pas dire, non, moi, je suis antimilitariste et on va mettre tout pour les professeurs de philosophie. Mais je peux voter effectivement pour des programmes qui sont plus ou moins orientés. Vous avez raison, monsieur. Pardon.
La prise de position au quotidien, quoi, c'est-à-dire tenir le cap et puis rester loyal par rapport à ces principes. Alors est-ce qu'on prend la position avec l'Ukraine ou avec la Russie? En France, c'est un peu divisé aussi là-dessus, donc on va savoir. Donc après, ça se fait aussi par les échanges, on peut avoir une influence dans notre entourage et tout. Donc, on a quand même une forte action. Quoi.
Donc, la distinction, la division que j'ai un petit peu présentée en début de débat, là, non, quoi. La distinction entre ce qui dépend de moi, ce qui n'en dépend pas, en fait, non, c'est pas vrai, je peux agir, c'est ça?
On peut agir, oui, davantage, surtout avec les réseaux sociaux, et puis on peut diffuser des idées... Quoi.
Très bien. Donc
on peut même avoir des liens avec des responsables politiques. On peut. Voilà.
Nous ne sommes pas des marionnettes.
Non. D'accord.
Ils sont pas séparés non plus avec.
On fait un petit tour de. Voilà.
Sur la question, est-ce qu'on peut être stoïciste? Est-ce qu'on peut être stoïque? Du coup, je pense que ce serait limite un peu prétentieux de dire qu'on peut l'être complètement. Quoi. On est toujours influencé par quelque chose. Et est-ce qu'on doit l'être? Je pense que ça peut être utile de. Enfin, tout est une question de dosage, je dirais. On doit un petit peu l'être parfois pour justement réfléchir justement à ces choses qui nous affectent, essayer de pas surréagir sur le moment, comme le rappelait monsieur, et essayer de réfléchir pourquoi il se passe ça, à comprendre ce qui se passe grâce à la science, grâce à n'importe quel moyen. Je pense que c'est là où le stoïcisme sert, quoi. Juste à ne pas surréagir sur le moment, mais est-ce qu'on doit ne rien faire et être dans l'inaction? Pour moi, non.
Juste un petit point, et après je vous laisse la parole. Hein. L'action du stoïcien, il y en a une, elle est forte.
Oui,
c'est une philosophie de la volonté. L'action, elle est tournée vers moi-même et vers mes propres. Je commence un peu à répondre à ce que tu disais, enfin à écrire ce que tu disais. Elle est tournée vers moi-même et vers mes propres représentations initiales, pour le dire de manière plus simple, vers mes propres sentiments, vers mes propres émotions, vers mes propres impulsions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un stoïcisme du cœur et de la raison. C'est que les émotions, elles ont leur propre existence, elles ont leur propre autonomie, Mais mes émotions, les émotions, c'est pas mes émotions. Les émotions, moi je suis là, ça c'est ce qui dépend de moi, mes jugements, ma raison, ma volonté. Mes émotions, elles sont là. Elles ne dépendent pas de moi, elles m'envahissent. Elles me hantent, positivement ou négativement. Et comment est-ce que je retrouve le contrôle de ma vie? Donc à la fois la liberté et, c'est ce que visent les stoïciens comme les philosophes grecs de l'Antiquité, le bonheur, entendu comme absence durable de malheur. Le bonheur, ce n'est pas la joie, c'est l'absence durable de malheur, c'est la sérénité ou la paix. Comment est-ce que donc je recouvre ma liberté et mon bonheur? Par une action très forte, une action de la volonté très ferme sur le contrôle de mes émotions. Et ça ne vient pas en un jour, quand tout ça en tête, les aphorismes qui viennent à l'esprit, c'est toujours le même épithète qui, dans son manuel, c'est l'aphorisme 3 du manuel épithète, en disant, mais si tu aimes un vase d'argile, dit épithète, dis-toi, tous les jours, j'aime un vase d'argile. Vient-il en effet à se briser, tu n'en seras pas troublé. Vous tenez un petit truc, un vase d'argile, vous y tenez comme à la prunelle de vos yeux, sauf que vous savez, et ça c'est la raison qui vous dit, que l'argile c'est fragile, qu'un moindre choc, un mauvais geste, et puis votre vase auquel vous tenez de manière très très importante, se brise en mille morceaux. Et donc, vous allez vous entraîner, j'allais dire, un peu comme on fait un exercice physique, un exercice spirituel, vous allez vous entraîner à vous détacher finalement de l'émotion qui serait la vôtre si jamais vous veniez à voir votre vase d'argile se briser devant vous. Et il continue, parce que le vase d'argile, c'est ce par quoi je vais à l'essentiel. Si tu, la fausse est terrible. Si tu aimes ton enfant ou ta femme, dis-toi que tu aimes un être humain, vient-il en effet à mourir, tu n'en seras pas troublé. Parce que tu sais, c'est ta raison qui te dit, qu'un être humain, c'est un être vivant, que tout vivant est appelé à mourir, c'est le sens même de la vie, nous sommes toujours en train de mourir, nous mourrons tous les jours. Et de la même façon que je vais me détacher de l'argile en me disant, mais en fait l'argile, c'est friable, c'est fragile, et donc je vais constater mon vase d'argile brisé en mille morceaux devant moi, et je vais tâcher de ne pas en être affecté. De la même façon, quand j'embrasse ma femme, mon enfant le matin, je devrais me dire, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire à titre personnel, mais c'est bon en plus. Et donc quand j'embrasse ma femme ce matin, je me dis, j'embrasse un être humain, vient-il en effet à se briser comme le vase d'argile, à mourir, elle ou moi, je n'en serai pas troublé. C'est ça finalement. La volonté, elle est sur le contrôle de la sensibilité, elle est sur le contrôle des émotions. Question, est-ce que c'est possible? C'est une question. Est-ce que vraiment, si j'apprenais, et je me mets en scène la perte de mon épouse là maintenant, est-ce que je pourrais, sortant de mon café philo sur stoïcisme, me rappeler l'aphorisme que je viens de vous citer? Réponse, oui, je pourrais m'en rappeler. Est-ce que je pourrais le vivre? C'est encore autre chose. Mais, quand même, après je vous laisse la parole, parce que je peux te parler. Le travail du deuil, c'est ça. Le travail du deuil, évidemment que dans l'immédiateté, vous êtes tourmenté par l'absence, la perte, bref, les liens affectifs. Mais le travail du deuil, c'est bien ça, c'est redonner à l'événement sa juste place, redonner à l'événement, même pas sa juste place, sa juste définition. Un être humain a perdu la vie, un vivant a perdu la vie, un vase d'argile s'est cassé. Oui, attendez, il y a un ordre, et après on vous laisse la parole au premier des jurés.
2, 3, 4, et 5.
Oh là, oh là, il y a le temps, d'ici là.
Donc moi je voulais dire que en fait, au moment où ils ont écrit ces textes,
je pense qu'ils avaient aussi des préoccupations. Actuellement, on dit maintenant, on a plus de préoccupations, on est plus sensible à certaines choses, mais s'il a écrit ce texte, c'est que lui, il était sensible aussi à différentes choses. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que nous, on y est plus. Enfin, on est peut-être plus sollicité, mais finalement, on rencontre le même problème que ce qu'il rencontrait. Sauf que bah, nous, on le rencontre avec nos. Avec les médias, avec des choses comme ça, et eux, ils le rencontraient peut-être plus avec des ragots, avec des choses peut-être plus personnelles, et voilà. Donc, je ne pense pas qu'on puisse faire une différence en disant est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait le vivre ? Est-ce qu'à l'époque, il était capable de le vivre ? Et à mon avis, s'il l'a écrit, c'est que ça posait un certain nombre de problèmes. Enfin, ce n'était pas forcément quelque chose qui allait de soi. Donc, on peut se poser la même question, finalement, que eux se posaient à l'époque. Et aussi par rapport au périmètre des différentes choses qui sont modifiables, enfin sur lesquelles on a de l'action ou pas, pareil, la société elle a évolué, donc le périmètre il évolue, le périmètre de ce qu'on connaît évolue, puisque comme vous disiez tout à l'heure, s'il se passait quelque chose en Iran il y a peut-être 200 ans, on ne serait pas au courant, alors qu'aujourd'hui on l'est. Donc c'est aussi comme le périmètre de la société a évolué. Peut-être que le périmètre des choses sur lesquelles on peut avoir une action a évolué aussi, et des choses sur lesquelles on n'a pas d'action. Et donc, ça veut dire que bah, peut-être qu'au lieu de se dire est-ce qu'on peut être stoïque, la question c'est est-ce qu'on ne peut pas redéfinir les différentes choses sur lesquelles on peut avoir une action ou sur lesquelles on ne peut pas. Et à ce moment-là, ça donne quelques pistes sur le fait de savoir si on peut ou pas. Appliquer ce qu'on peut dire.
Donc essayer de moderniser, d'actualiser finalement l'inventaire.
Hein, d'actualiser, oui, puisque on ne peut pas lire quelque chose qui a été écrit il y a 2400 ans comme à cette époque-là qu'on n'a pas vécu et qu'on ne peut pas savoir comment ça s'est passé. Enfin, on ne peut pas savoir après certains choses. Mais... Et puis la dernière chose, c'est par rapport au fait d'être stoïque, c'est que je pense qu'on essaye tous d'avoir une bonne santé physique. C'est important d'avoir une bonne santé mentale, et le fait d'arriver à garder ou à prendre certaines distances par rapport aux événements, surtout des événements, alors je dirais pas sur lesquels on ne peut pas agir, mais qui ne sont pas forcément, qui ne se rapportent pas directement à nous, c'est aussi le fait de pouvoir justement avoir une bonne santé, prendre certaines distances, ne pas être submergé par des émotions qui ne nous appartiennent pas, puisque non seulement on ne peut pas agir dessus, mais en plus, elles sont extérieures physiquement on n'y est absolument pas, on n'est même pas partie prenante de ces, enfin directement en tout cas.
Ça, c'est vraiment l'une des grandes leçons du stoïcisme dès l'origine, hein, que vous êtes en train de restituer. Hein. Vraiment.
Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est Internet, on peut parler de la voiture, on peut parler de la télé, parce que la télé, encore moins agir dessus. Tout ça, c'est des outils, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont mal Un outil, c'est une invention. Après, c'est ce qu'on en fait qui est bien ou mal. Donc, voilà.
Ouais, enfin, on reviendra sur cette question de l'outil et de la technique. Je mets ça juste dans le débat, hein, et après, je vous redonne la parole tout de suite. Peut-être que l'outil n'est pas qu'un simple outil. C'est-à-dire que l'outil véhicule une idéologie, celle de la technique, qui consiste à nous dire « tu peux, je transforme le monde ». Et surtout, l'outil, il crée son utilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une voiture, en fait... je suis tenté de m'en servir. Je ne peux pas faire comme si j'en avais pas, en disant non, je la prends pas. Non, elle est là, elle m'invite, elle me dit prends-moi, tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable. De ça. Alors, dans l'ordre.
J'ai oublié ce que
je voulais dire. C'est un peu le problème, voilà. Le problème du café philo, c'est que, voilà, entre le moment où vous voulez réagir et le moment où vous réagissez, il y a. Voilà. Il y a toujours un petit laps de temps et c'est parfois pas, voilà, ça crée du décalage, c'est pas grave.
Oui, donc moi je voulais juste revenir très rapidement sur est-ce qu'on peut agir sur notre monde aujourd'hui. Bon, le monde aujourd'hui, on sait, on nous rappelle tous les jours, c'est cette crise écologique. Et je me disais, en mémorant il y a 15-20 ans, je crois que c'est Pierre Rabhi, Cyril Dion avait créé le mouvement des colibris.
Oui.
Donc c'était vraiment agir vraiment sur sa sphère proche, sur son quotidien, des petits gestes du quotidien, etc. Et là, effectivement, depuis quelques années, on nous dit, attendez, on se fixe des objectifs zéro émission à 2050, et on calcule que même tous les gestes du quotidien, ça fera 20-30%, mais ça ne fera pas tout le chemin. Donc, au-delà de ça, il faut passer à autre chose et agir de manière plus collective, ce que tu disais. Enfin, voilà. C'est-à-dire que, mon introduction là-dessus, est-ce que cette tendance à se dire, attendez, moi je prends un peu de distance puis j'agis sur mon quotidien personnel, est-ce que ça s'apparente un peu à une démarche stoïque ou pas, je sais pas. Voilà, et puis deuxième chose, à l'inverse, il y a Gaël Giraud, là, qui était, enfin, je l'ai revu, qui est sur une vidéo récemment, nous disait que...
Gaël Giraud, c'était un économiste.
Oui, voilà. Qu'il avait discuté avec des banquiers très, très rationnels, comme ça, qui, sans affect, entre guillemets, en tout cas, qui va loin, il disait, écoutez, de toute façon, on le sait, tout est foutu, voilà, ok. Donc, on en prend acte, et puis, nous, on s'occupe de nous en priorité. Voilà, hein, ça, c'est du séparatisme social. Donc ça rejoint un peu, voilà, est-ce que faire séparation, d'un point de vue, et se replier sur soi, parce qu'il y a des milliardaires, on le sait, hein, des millionnaires très riches qui sont construire des bunkers dans des pays qui seront a priori pas trop touchés par la crise climatique, est-ce que ça c'est une forme de prise de distance, mais pour le reste c'est prise de distance par rapport au monde et séparatisme total.
Oui, très bien.
L'essentiel a déjà été dit, mais je voulais revenir un peu sur le stoïcisme. C'est presque c'est pas la mort cérébrale, parce que ça apporte beaucoup de... ça nécessite beaucoup de raisonnement. Mais c'est presque une mort prématurée. Parce que, comme disait quelqu'un d'autre, la difficulté, c'est pas de mourir, c'est de quitter la vie. C'est pas moi.
C'est très juste. Je veux bien... Monsieur, allez-y.
Ah oui, alors, déjà, merci. En fait, vous avez réussi à mettre des mots sur un sentiment que j'avais déjà. J'aimerais vous répondre par rapport à ce que vous avez dit sur le fait que vous embrassiez votre femme et essayez de prendre toujours du recul sur la situation en vous rappelant que, de toute façon, c'est un être humain. Eh bien...
En se forçant à me rappeler. Mm-hmm. Ça ne vient pas spontanément.
Oui.
C'est une démarche volontaire. Non, mais c'est vrai, voilà.
Ben, en fait, moi-même, j'ai... avec ma soeur, justement, on a connu un deuil récemment, et depuis, personnellement, j'ai l'impression de porter un masque comme si j'étais fou, comme si je portais un masque qui, rarement, si je voyais, par exemple, je vais voir au cinéma le film d'Elvis Presley qui est sorti, le moment où il perd sa mère, je vais faire un transfert, et là, ce masque va se briser. Mais sinon, je ne montrerai pas de sentiments, comme si j'étais comme si faux ou hypocrite, ou je ne sais pas. Oui, exactement. J'ai pas l'air infecté, tout va bien. Mais il faut que je vois la chose, qui me rappelle la chose pour que ça me brise un peu. Alors qu'en fait, pourtant, moi, ma rhétorique de vie, mon principe de vie, c'est vraiment... si on ne peut pas éviter une chose, à quoi bon se le ressasser, ça ne sert à rien. On n'est pas des robots, on ne peut pas se formater le cerveau ou quoi que ce soit. Donc, concrètement, autant passer à autre chose. La chose est passée, certes, passons à autre chose, mais je pense qu'on ne peut pas tout contrôler. Et pour ce qui est des émotions, comme vous l'avez dit, quelque chose qui est à côté. Donc même si on s'entraîne à essayer de ne pas envahir, en fait, je pense que ça sera toujours plus compliqué parce que dans une vie... on grandit avec des gens, on grandit avec des familles, des amis, des gens qu'on aime. Donc, à moins de vivre comme un ermite dans les bois, tout seul, on grandit toujours avec des gens qu'on apprend à aimer de plus en plus. Donc, dans tous les cas, il y aura toujours un moment où on ne pourra pas être stoïque, en fait. Parce que, comment dire, je pense que la douleur psychologique est toujours bien plus lourde que la douleur physique. Et c'est pas toujours dur, enfin facile à penser ce genre de plaie.
Très bien, merci monsieur.
Cette douleur, je ne peux pas l'exprimer, j'en parle jamais, mais elle est en moi, et si quelque chose la réactive, en quelque sorte, l'émotion sort. Ouais. Mais peut-être parce que vous êtes dans le déni, vous êtes encore dans le travail du deuil, et vous êtes peut-être dans le déni de cette perte. Et voilà, c'était pour ça que vous réagissez comme ça. Autrement, tout à l'heure, je pensais, tout le monde peut agir, etc. D'une certaine façon, oui, parce qu'on a quand même une certaine liberté et un libre arbitre, donc on peut choisir de prendre sa voiture ou de ne pas la prendre, de marcher à pied, d'allumer son ordinateur ou pas. Mais pour en revenir à Internet, là, on est quand même piégé.
Si, je suis d'accord.
Je peux toujours marcher à pied, ni rester en vélo. C'est mon problème, je choisis. C'est le choix, c'est ma liberté. Mais Internet, là, c'est pas du tout la liberté. Je l'allume deux fois par semaine, hein, minimum. Je regarde un peu mes mails parce qu'on est bien obligé, parce qu'on en retrouve par mail. Donc je me sens pieds et poings liés. Et là, je n'ai pas le choix. Et c'est ça qui est terrible dans notre société, c'est d'être privé de choix, de ne plus pouvoir choisir sa manière d'agir, sa manière de faire ou de ne pas faire. On peut pour certaines choses, mais pas.
Allez. Vous vouliez réagir
Vous n'étiez pas obligé d'aller relever votre voiture avant pour ça que vous n'ayez pas retourné.
Oui, moi je voulais revenir sur ce que tu as dit ici. En fait, j'ai l'impression dans tout ce qu'on dit, c'est que le stoïcisme, c'est un peu une forme d'illusion, même si on essaye d'être stoïque, parce que de ce que je comprends dans ton comportement, depuis le décès de papa, t'es quand même. Enfin, tu restes stoïque et au final, c'est dans des situations comme ce que tu racontais que là, il y a ce craquement, il y a ce transfert. Et au final, je pense que le stoïcisme, c'est plus peut-être un moyen de défense ou une carapace. Mais en réalité, il n'y a pas forcément de moyen de rester stoïque aujourd'hui, que ce soit par rapport à nos émotions ou différentes situations, comme ce que vous expliquiez avec le fait de s'entraîner en se disant... Est-ce que, enfin, ma femme est un être humain, le jour où elle meurt, moi je suis en PLS, enfin, moi je me sens mal, j'oublie tout ce que j'ai essayé de rationaliser, j'oublie ma raison, mon stoïcisme, et je pense qu'à un certain moment, on est tellement submergé par les émotions qu'on oublie toutes ces pensées et tout ça. Quoi. Voilà.
Je vous laisse réagir, monsieur, puis je reprendrai un peu la parole après. Mais...
Oui, je voulais juste dire qu'en fait, on parle de rester stoïque, et je crois que, enfin, d'après ce que je comprends, c'est une philosophie. L'objectif, c'est de tendre vers, c'est pas de rester, d'être. Donc, si c'est un idéal, ça veut dire que c'est difficile à atteindre, comme tous les idéaux. Et donc, voilà, c'est peut-être une méthode ou peut-être quelque chose qui peut aider ou qui peut permettre d'avancer. C'est pas forcément quelque chose qu'on est ou qu'on a besoin de garder, mais quelque chose vers lequel on peut tendre.
Ouais. Bon, je veux bien réagir. Il y a plusieurs éléments que vous avez évoqués qui ne touchent pas forcément aux mêmes considérations. Sur la question de la possibilité même du stoïcisme, les stoïciens sont très lucides. Se transforme pas en super-héros, comme si rien ne pouvait les toucher, comme s'il y avait une sorte de bouclier qui les garantissait de toute forme de servitude ou de douleur. Vous avez une phrase, je crois que c'est encore Yann Laurence, pour avoir la confirmation, encore épithète, ou attribuée à, qui dit « Allez me chercher un stoïcien, trouvez-moi un stoïcien ». Allez me chercher un stoïcien, pardon, si vous en trouvez un. Autrement dit, voilà, c'est-à-dire que l'un des représentants majeurs du courant est bel et bien conscient de ce que j'ai dit, monsieur. Hein. Le stoïcisme est davantage un horizon vers lequel on essaye de s'orienter, un idéal à atteindre, qu'une réalité. Mais entre ne rien faire et se laisser toujours bousculer comme une sorte de bouteille qu'on enverrait à la mer selon les courants marins, entre donc se laisser bousculer au gré des vents et être absolument inébranlable, il y a cette voie-là que les stoïciens nous invitent à suivre, qui consiste à reconquérir une certaine autonomie, reconquérir une forme de gouvernement de soi-même, quand bien même, évidemment, dans certaines situations, ce gouvernement de soi serait difficile, sinon impossible à réaliser. Ça, c'est un premier point, c'est-à-dire que le contrôle de la sensibilité, le contrôle de l'émotion, il repose sur une série d'exercices, c'est ce qu'on a parlé, et deux, il faut être lucide par rapport à notre propre possibilité d'intervention, d'action et de contrôle. Le deuxième point que vous avez mentionné, c'était sur la valeur elle-même. C'est ce que vous avez dit, monsieur, dans votre intervention. Finalement, on a l'impression que le stoïcisme, c'est une sorte d'invitation à vivre sa vie comme si nous étions déjà morts. Vous avez parlé de mort cérébrale précipitée. Finalement, comme si, en mettant à distance du côté là, de ce qui ne dépend pas de moi, tout ce qui m'arrive, ma réputation, mon corps, ma richesse, ma carrière professionnelle, mes affects, enfin mes émotions, en mettant tout ça à distance, je retire, c'est comme si je j'ôtais même de la vie ce qui la rend vivable. À quoi bon vivre si c'est pour ne plus rien ressentir? À quoi bon vivre si, lorsque votre enfant vient à naître, vous l'avez désiré, et à quoi bon vivre si la personne que vous perdez et auquel vous teniez énormément, Finalement, vous voyez, si on commence à neutraliser notre rapport à l'existence, c'est l'existence elle-même qui semble perdre finalement son sel, sa saveur, son sens. Et je pense que c'est une première lecture qu'on peut faire du stoïcisme. C'est une lecture qui est assez fréquente, en disant, mais en fait, non, c'est n'importe quoi, enfin, je ne veux pas vivre comme ça. C'est ce que les épicuriens, je ne vais pas faire un cours sur l'épicurisme maintenant, mais c'est ce que le mouvement d'Épicure va reprocher, va dire, en gros, mais non, on n'est pas là pour être indifférent aux choses. On est là pour jouir de ce que le temps présent nous permet de... ce à quoi le temps présent nous permet d'accéder. Il y a peut-être une autre lecture, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de se rendre indifférent aux choses. Il s'agit, premier point, de faire acte de lucidité. Je ne peux pas tout transformer, y compris ce qui me touche profondément. Et je ne suis pas, doté de super pouvoir, je ne suis pas un dieu sur Terre. Si jamais il y avait un dieu quelque part. Donc, premier point, le second point, je viens de le dire, une sorte de modestie, une sorte d'orgueil quand même de la volonté, notamment la volonté de nos sociétés modernes, techniques et un peu prométhéennes, qui consiste à dire, on peut tout transformer, je peux aller à New York en 6 heures, le réchauffement climatique, mais non, t'inquiète pas, on va balancer tel ou tel produit dans l'atmosphère, t'inquiète pas, ça va réduire la température sur Terre, tout va bien, moi je m'appelle Elon Musk, suivez-moi les gars. Une sorte d'orgueil, et finalement, qui consiste à dire, il faut accepter le monde tel qu'il est. Et puis, peut-être que ça serait à prendre le stoïcisme à rebrousse-poil, je ne serais pas loin de faire un contresens par rapport à l'origine. Mais bon, on n'est pas ici en train de faire un séminaire sur le stoïcisme à l'université. Peut-être se dire, finalement, que plus je considère que ce qui n'est pas à ma portée n'est vraiment pas à ma portée, plus j'en suis conscient, plus j'en prends soin. C'est-à-dire, j'en profite pas, j'en prends soin. Plus je m'en soucie. C'est-à-dire que le fait, ce matin encore, de faire un petit bisou à mon épouse en disant « à ce soir et tout, tu sais, ce soir je suis en café philo, tu m'attends pas, machin. » Ouais, très bien. Et se dire que c'est peut-être la dernière fois que je l'ai vu, c'est peut-être ce moment-là qui me permet de prendre soin de celle avec qui je partage ma vie, d'y faire attention, de l'accompagner, de m'accompagner, et finalement d'avoir un instant qui pourrait être banal, un instant qu'on pourrait négliger, et de transformer cet instant finalement du quotidien comme un instant précieux. Et c'est peut-être ça finalement, retrouver le sens d'une vie à partir du stoïcisme, c'est de se dire finalement, comme je sais que je ne suis maître de rien sauf du jugement que je porte sur les choses, je vais faire en sorte que dans chacune de mes actions, et encore une fois, je n'y arrive pas, personne n'y arrive réellement, que dans chacun de mes choix, de mes conduites et des moments que j'agis, y compris encore une fois les moments du quotidien, je puisse me dire que ceux-là vont m'échapper, ou peuvent m'échapper. Ils sont sur le point de m'échapper. Que ce bonheur-là, enfin cet instant-là que je suis en train de vivre, peut-être que demain je ne le vivrai pas. Et qu'en ce sens, finalement, j'ai une responsabilité qui m'incombe à moi, pas à l'autre. L'autre, c'est son affaire. D'accord ? Une responsabilité qui m'incombe à moi de ne pas laisser s'échapper ce qui, de toute façon, va m'échapper. À savoir la relation, par exemple, avec telle ou telle personne, la relation avec mon environnement naturel. Notre stratégie, notre système technique, productiviste, extractiviste, pour parler comme un militant écologiste, notre société moderne, elle, qu'est-ce qu'elle a fait en fait ? Elle nous a dit, mais tu sais, les stoïciens, ils te disent que la nature ne dépend pas de toi, mais si elle dépend de toi, tu peux l'exploiter, c'est une ressource la nature, exploite-la, tu vas construire des buildings, exploite-la, tu vas traverser l'Atlantique, exploite-la, tu auras des tonnes et des tonnes de céréales et de pour le petit déjeuner dans des hypermarchés, tu auras le choix entre 30 000 marques. Et finalement, lorsqu'on se laisse aveugler par cette puissance technique, finalement, ce qu'on néglige, c'est l'environnement lui-même. Qui se rappelle à nous ? Il se rappelle à nous. Il ne se venge pas, l'environnement, la nature ne se venge pas, elle n'a pas douté de pouvoir. Elle se rappelle à nous. Puis j'ai une troisième remarque, j'ai longuement parlé. Pour revenir sur la question, et vous avez raison, vous l'avez évoqué à deux ou trois reprises, sur la question de, vous avez parlé d'égoïsme du stoïcisme. Alors, est-ce que c'est l'égoïsme ? Oui, au sens propre du terme. Au sens où je suis, au sens descriptif et pas amélioratif ou péjoratif du terme d'égoïsme, par égoïsme, je constate, je décris la réalité qui est là. Qui est la seule à laquelle j'aurai accès, c'est-à-dire que je suis moi et je ne serai jamais toi. C'est-à-dire que je suis moi et je suis condamné à voir le monde, à me représenter le monde à travers les œillères, les filtres qui sont les miens. Ceux de mon enfance, ceux de ma situation sociale, ceux de mon époque, etc. Et donc finalement, oui, c'est un égoïsme, parce qu'on ne peut d'abord se soucier que de soi. Et lorsque je me soucie des autres, ça ne veut pas dire que je ne me soucie pas des autres, je ne me soucie d'abord que de moi. C'est-à-dire que je ne me soucie des autres que parce que j'ai un souci pour eux, moi. Sinon, je ne m'en soucierai pas. La preuve, c'est que je ne me soucie pas de grand monde et de grand chose. Enfin, moi, vous, d'accord ? On n'est pas toujours en train de militer et de venir en aide à toutes les personnes qui souffrent de par le monde. Et donc, oui, c'est un égoïsme. C'est même plus que ça. C'est un individualisme. Et c'est peut-être ça, à mon avis, le ton de reproche que vous avez, et qui peut-être, je ne sais pas, justifie ou pas, j'en sais rien. C'est un individualisme, c'est-à-dire que nous sommes des individus avant que d'être. Aujourd'hui, c'est peut-être discutable. Hein, nous sommes des individus singuliers, uniques, avant que d'être les membres d'une famille, avant que d'être les membres d'une communauté nationale, religieuse, ethnique, enfin, culturelle, ce que vous voulez. Avant même que d'être les membres d'une humanité. Et donc, effectivement, le stoïcisme, c'est une sorte de, comme l'épicurisme d'ailleurs, de mode de survie par temps de crise. Quand tout fout le camp, quand tout va mal, quand la guerre éclate, quand, Épictète, vous êtes esclave dans un monde esclavagiste et vous avez l'autorité d'un maître qui vous a servi, quand les banquiers. Sur le ton froid d'un reptile, nous disent de toute façon tout est foutu, et ben en gros, chacun pour soi, débrouillez-vous les gars, nous on a placé nos actions dans tel ou tel plan de survie. Bref, quand tout va mal, ben, en fait, je me dis que tout ça là, que tout ce qui va mal, ça dépend pas de moi, et si ce qui va dépendre de moi, c'est la façon dont je vais juger tout ça, dont je vais essayer de construire. Donc, oui, c'est un égoïsme, oui, c'est un individualisme, et oui, effectivement, vous avez raison. Mais je pense que ça serait un non-sens pour un stoïcien. Mais encore une fois, la question, c'est est-ce qu'on peut être stoïcien et est-ce qu'on doit l'être aujourd'hui ? Ça serait un non-sens pour un stoïcien que de penser une action collective. Puisque le collectif, ça ne dépend pas de moi. Je peux me mettre en grève le 19 janvier, peux me remettre en grève le 31 janvier. Je sais pas que c'était le cas. Ok, je me mets en grève, ça dépend de moi. Bon, là, je défile et tout. Macron, t'es foutu. Les profs de philo sont dans la rue. Bon, très bien, super. Voilà. J'ai ma banderole et tout. Voilà, super. Voilà. Le collectif, ça ne dépend pas de moi. Effectivement, ça dépend, c'est la stratégie Colibri, de moi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, ça donne un effet de masse. Mais le plus toi, plus toi, plus toi, c'est pas moi, c'est les autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne fasse rien. Ça veut dire qu'on est modeste et lucide par rapport à notre pouvoir d'intervention. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé, c'est limite même une conclusion avant la conclusion. Désolé. Oui.
Ouais, du coup, c'était plus une remarque. Marc Aurèle, c'était bien stoïcien.
Oui, il est empereur, lui.
Ouais, voilà.
Voilà, stoïcisme, c'est quand même cette philosophie qui va d'un esclave à un empereur.
Ouais. Ah. Bah justement, je pensais que même si on n'est pas empereur, on peut toujours avoir du, entre guillemets, du pouvoir par rapport à ce qu'on a autour de nous, quoi. Et est-ce que être stoïque, ça ne nous aiderait pas aussi à mieux agir par rapport à ce pouvoir qu'on a? Alors, est-ce que lui, ça l'a pas aidé justement d'être stoïque alors qu'il était empereur, quoi?
Alors, juste un petit point, je ne veux vraiment pas reprendre la parole, j'ai trop parlé. Mais je vais poser une question d'information sur Marc Aurèle. Marc Aurèle, effectivement, donc c'est cet empereur du 1er siècle après Jésus-Christ, fin du 1er siècle et début du 2e siècle, qui, tout empereur qu'il est, rédige ce qu'on a traduit ensuite en français, ce qu'on appelle les pensées pour moi-même, les pensées pour soi-même. C'est-à-dire sur le mode de rédaction des stoïciens, ce sont une série d'aphorismes, de courts textes, qui ne sont pas destinés à d'autres personnes que soi-même. D'accord ? Et pour répondre à votre question, effectivement, la question se pose, Marc Aurèle, d'accord, c'est comment être empereur et sage. L'ivresse du pouvoir, je suis empereur romain, quoi. Je suis empereur romain, je suis 10 fois plus puissant qu'Elon Musk. Vraiment, j'ai un droit de vie et de mort sur des populations entières. L'ivresse du pouvoir crée cette illusion que finalement je peux intervenir sur le monde. Ouais. D'accord ? Moi qui suis empereur. Et précisément le stoïcisme pour Marc Aurèle, c'est cette mise en garde qui ne cesse de se rappeler à lui-même en disant tu n'es qu'un homme. Tu n'es pas empereur, tu es Marc Aurèle. D'accord ? Tu n'es qu'un homme. Et prends garde de ne pas te laisser enivrer par l'apparent pouvoir que ta position sociale et politique, à la tête de l'Empire romain, te donne. Donc c'est une sorte de mise en garde contre cet orgueil, finalement, cette démesure de la puissance politique. Voilà, c'est le travail d'humilité sur soi.
Juste ce que je voulais dire, c'est que peut-être qu'on n'a pas autant de pouvoir, mais on a quand même du pouvoir sur quelque chose, et est-ce qu'on ne peut pas appliquer cette même morale, quoi.
Très bien. Je n'ai pas répondu à votre intervention, monsieur, sur la liberté. Non, mais après, je parle plus.
Est-ce que conduire vers l'idéal, parce qu'on parle toujours des médias qu'on nous impose, mais on n'est pas non plus tenu de n'avoir qu'une seule information, on peut en rechercher plusieurs. Et du coup, est-ce que garder sa liberté de penser, ça ne conduit pas à une forme de stoïcisme?
Oui, d'une certaine manière, et ça va me donner l'occasion un peu de rebondir sur la question de la liberté dont nous disposerions, et vous parliez tout à l'heure, madame, également de libre arbitre. Quand même, on n'est pas des marionnettes du destin. Derrière le stoïcisme de l'Antiquité, il y a cette idée que le destin existe, et que de toute façon, notre existence est tracée, que tout ce qui est arrivé devait arriver, tout ce qui doit arriver arrivera, et que notre rôle, c'est de bien jouer le rôle, justement de bien assumer le rôle de données à jouer. Oui, voilà, vous mentionnez cette idée de libre arbitre, vous mentionnez. Voilà, j'en ai parlé à. Je me rappelle d'un autre il y a quelques temps déjà. C'est cette citation de Jean-Paul Sartre, alors, qui s'inspire à la fois du stoïcisme et qui est très critique, c'est-à-dire du stoïcisme. Dans L'être et le néant, Jean-Paul Sartre, qui est philosophe et écrivain du XXe siècle, il a une phrase très méchante sur le stoïcisme. Il nous dit, à un moment donné, au détour d'une phrase, le stoïcisme, virgule, cette morale d'esclave. Cette morale d'esclave, alors, évidemment, coup d'œil pas sympathique à Épictète, notamment, mais morale d'esclave au sens où, finalement, cette morale qui nous invite à nous résigner, à dire, mais non, c'est pas, tu peux rien faire et tout, accepte l'événement tel qu'il arrive. Accepte l'événement tel qu'il arrive et le cours de ta vie sera heureux, disent les stoïciens de mémoire. Et le même Sartre, qu'on présente souvent comme le philosophe de la liberté, nous dit, mais en fait, c'est pas vrai, on peut agir. Non seulement on peut, et on doit agir. Et en plus, on n'a pas le choix, c'est-à-dire que l'homme n'est fait que de liberté, l'homme n'est qu'une liberté en acte, l'homme n'est qu'un projet, l'homme n'est que ce qui se fait, l'homme n'est qu'une action. Et, pour illustrer mon propos, vous avez un court article que Sartre rédige en septembre 1944, donc au moment où la Seconde Guerre mondiale est encore en train de déchirer le monde. Paris a été libéré le 25 août 1944. Et Sartre publie un article dans un ouvrage, enfin peu importe, dans une revue, qui s'intitule La République du silence, évoquant la résistance, notamment. Et il ouvre cet article par cette fameuse phrase qui est devenue très célèbre parce qu'elle est assez polémique, en tout cas elle est provocante, provocatrice. Jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation allemande. Jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation allemande. Et il ajoute ensuite, de mémoire, on nous arrêtait en masse, on nous déportait, on nous manipulait, on nous crachait au visage, partout. De mémoire, le venin nazi se pénétrait nos pensées. Et c'est pour cela que nous n'avons jamais été plus libres. Alors, quand on lit ça, écrit par un philosophe à Paris, plutôt préservé, en sachant que en été 44 et à l'automne 44, jamais les chambres à gaz des camps d'extermination nazis n'ont été aussi productives, entre guillemets, c'est le génocide des Juifs de Hongrie, on peut être raisonnablement choqué. On peut dire, en fait, c'est un mot de provocation de très, très, très mauvais goût, c'est très dépassé. Voilà. Mais on peut le comprendre. Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande. Je n'ai pas choisi, alors c'est vraiment une sorte de réponse au stoïcisme, enfin, je n'ai pas choisi l'occupation allemande. Moi, je suis citoyen français, pour prendre l'exemple de ça. Voilà, il y a une montée des nationalismes, il y a la déclaration de guerre, et puis il y a la guerre. Et puis il y a les Allemands qui envahissent la France et qui occupent la zone nord, zone sud. Elle est là, l'occupation. Je n'ai pas choisi. Par contre, et c'est ce que Sartre va reprocher aux stoïciens, je me choisis en fonction de ce que je n'ai pas choisi. J'ai pas le choix d'ailleurs. J'ai pas le choix de ne pas me choisir. Face à l'occupant allemand, soit j'attends, comme l'immense majorité des Françaises et des Français ont pu le faire à l'époque, et j'essaye de faire en sorte que l'orage passe sans trop me toucher, soit je collabore, activement ou passivement. Activement, j'essaye de prospérer, de faire mes affaires avec l'occupant. Passivement, bah, en fait, je suis réquisitionné, pardon, et puis c'est comme ça, enfin, je baisse la tête. Donc, soit j'attends, soit je collabore, soit je résiste, activement ou passivement. Je résiste activement, j'entre dans les réseaux de résistance, je prends le maquis, ou passivement, j'aide sans trop rien dire, je garde le silence en sachant qu'à côté il y a des résistants actifs. Soit je m'enfuis, pas forcément pour rejoindre la résistance à Londres, mais je m'enfuis vers un lieu où la guerre sera peut-être moins pénible à soutenir. soit je me donne la mort. Parce que c'est insoutenable et que dans la configuration qui est la mienne, je ne peux pas envisager autre chose. Et finalement, c'est face à une adversité réelle que non seulement je prends conscience qu'avant j'étais libre, voilà, ça c'est la première interprétation, mais ce n'est pas celle que ça envisage, mais c'est face à cette adversité que j'affirme ma liberté. Quoi que je fasse, dit Sartre, c'est une sorte de réponse au stoïcisme, quoi que je fasse, je ne peux pas ne pas me choisir en fonction de ce que je n'ai pas choisi. Refuser de choisir, c'est-à-dire ne rien faire, c'est encore choisir. C'est se choisir à ton plaisir. Certains ont fait le choix, des Maurice Papon, de collaborer. Certains ont fait le choix, des Jean Moulin, et personne ne nous demande d'être des héros comme Jean Moulin, de résister jusqu'à la mort, jusqu'à ce que mort s'en suive. Certains ont fait le choix de fuir, d'organiser la résistance, certains ont fait le choix de se donner la mort. Et finalement, c'est un peu ça ce que cherche à nous dire Sartre par rapport à l'idéal stoïcien, c'est que, bien sûr, oui, vous avez raison, il y a ce qui dépend de moi, ce qui n'en dépend pas. Mais là où vous avez tort, dit Sartre au stoïcien, c'est que la liberté ne consiste pas simplement dans le jugement que je porte sur la réalité. Ma liberté, elle se définit, c'est même pas qu'elle elle se limite pas, elle se définit dans l'ensemble des actes que j'accomplis pas. Je n'ai pas choisi, à titre personnel, ni vous, je crois, la guerre en Ukraine. Mais je me choisis par rapport à cette guerre en Ukraine. Moi qui suis orléanais, je n'ai aucun lien personnel avec quelqu'un qui serait touché de près ou loin par cette guerre. Vous avez des parrains pour accueillir des familles ukrainiennes à Orléans. Est-ce que j'en fais partie? Non. Je vous le dis, voilà, je n'ai rien fait.
J'ai donné un peu d'argent,
etc. Rien. J'ai bien vu les drapeaux ukrainiens à la rue de la République, à Orléans. Bon, voilà, c'est ma participation s'arrête. D'autres, à Orléans, sont investis dans des réseaux de soutien aux Ukrainiens. D'autres, à Orléans, j'en connais un au moins, une personne, sont partis en Ukraine pour aider la population ukrainienne, d'autres sont partis en Ukraine pour prendre les armes, comme les brigades internationales au moment de la guerre d'Espagne, la guerre civile, pour prendre les armes contre l'invasion russe. Et finalement, on voit bien que nous toutes et tous qui sommes réunis ce soir, nous sommes non seulement touchés par cet événement, que nous n'avons pas choisi, mais nous nous définissons au quotidien par le jugement et la réaction qui est la nôtre par rapport à cet événement. C'est peut-être ça, finalement, l'une des remarques, un reproche, en tout cas l'une des limites qu'on peut faire au stoïcisme, je parle à titre personnel, c'est que certes, c'est un idéal de vie qui me conduit à une sérénité, une vraie modestie, une lucidité, une humilité, mais il me semble que, vous l'avez dit, c'est une morale, une sagesse, individualiste, parce qu'elle correspond aux mouvements sociaux de lutte, d'émancipation qu'on a cherché à mettre en œuvre dans l'histoire et encore aujourd'hui. Est-ce que c'est possible de la mettre en œuvre sur la question de la sensibilité? Alors, les stoïciens y répondent. D'accord. Et surtout, est-ce que aujourd'hui, pas plus, je pense que vous avez raison, monsieur, ce qui change, ce sont les événements, le fond de mon existence, le fond ontologique, si on voulait parler comme un fond de philo, reste le même, c'est-à-dire il y a moi, les autres, le monde, la mort de ceux que j'aime, de ceux qui me sont indifférents. Et finalement, j'en termine, ce que nous dit Sartre, c'est que oui, cette partage des choses est juste, mais ça n'est peut-être pas une raison suffisante pour s'enfermer dans sa tour d'ivoire, à la manière d'un sage stoïcien qui verrait le monde d'en haut, voilà, avec la sérénité du sage, pour s'enfermer dans sa tour d'ivoire, puisque s'enfermer dans sa tour d'ivoire, c'est encore opérer un choix par rapport à une situation qui nous touche quoi qu'on fasse. C'est pas que j'ai choisi d'être libre. Je choisis pas d'être libre. Je suis, comme dit Odissa, condamné à être libre. Je suis condamné à être libre. Le paradoxe, c'est ça, c'est qu'il y a un élément de mon existence que je n'ai pas choisi, c'est que je suis un être doué de conscience, doué de raison, et à ce titre, condamné à faire des choix en toute lucidité et en toute connaissance de cause. Ce pourquoi je suis toujours responsable de tout ce qui arrive, de tout ce qui m'arrive, de tout ce qui arrive, non pas en tant que lanceur d'auteur, mais je suis responsable de freiner, conforter, justifier, lutter, bref, réagir de telle ou telle façon par rapport à l'ensemble du monde. Juste, parce que je parle longtemps, pas si vous avez... Non ? Mais moi, j'ai un peu monopolisé la parole. Une petite référence que je me permets de vous proposer en fin de parcours. Un philosophe et sociologue, d'abord il est sociologue, plus que philosophe, allemand contemporain, qui s'appelle Hartmut, de son prénom Rosa. Je ne parle pas l'allemand, donc je vais mal prononcer. Rosa, R-O-S-A. Et qui, après avoir travaillé sur nos rythmes de vie, il y a un gros bouquin qui est sorti il y a maintenant une dizaine d'années sur ce qu'il appelle l'accélération de notre temps de vie, a proposé le concept, dans son avant-dernier ouvrage, le concept de résonance. Qui, au moment où on parlait de ça, j'ai fait le lien avec le stoïcisme, le concept de résonance, c'est très simple. La résonance, pour Rosa, c'est la faculté qu'a un vivant, pas forcément humain, d'entrer en interrelation, d'entrer en relation, pas encore en interrelation, dans son relation, avec son environnement naturel, avec son environnement social, c'est-à-dire ceux avec qui il est appelé à vivre, et avec son propre corps, avec lui-même. Et finalement, en nous disant que l'un des, c'est un peu ce que vous avez mentionné au tout début de l'intervention, du débat, que l'un des symptômes, ou l'un des mots MAUX de nos sociétés, c'est finalement cette immédiateté, cette surréaction, ce rythme de vie toujours plus accéléré, comme s'il fallait trop gagner du temps pour quoi, d'ailleurs, pour être encore un peu plus sur Internet, peut-être. Bref, que l'un des mots de notre société, finalement, c'est cette accélération et ce dispositif technique qui nous invite finalement à nous séparer par écran interposé ou pas par écran interposé, à nous séparer de ce à quoi nous devrions finalement nous rapporter constamment. La nature, mon environnement végétal, animal le plus quotidien, les autres avec lesquels j'interagis et moi-même. Et finalement, la résonance, nous dit Hartmut Rosa, c'est la volonté, le travail, on revient sur l'idée d'exercice, le mot d'argile dont je parlais tout à l'heure, c'est la volonté au travail que chacun pourrait, pour lui-même et pour les autres, entreprendre, pour de nouveau raisonner avec les autres. Un peu comme, vous voyez, des instruments qui résonnent les uns avec les autres et qui entrent en harmonie jusqu'à la symphonie, pour de nouveau raisonner avec les autres, c'est-à-dire ne plus se balader, je ne sais pas, dans le tram avec son téléphone portable comme ça, mais c'est des gestes très simples, hein. Regardez les gens, regardez le paysage dans le train, d'accord ? Essayez d'entrer en dialogue avec ce qu'on fait ce soir, c'est pour ça que je suis très heureux, les uns avec les autres. Entrer en dialogue avec soi-même, c'est-à-dire à un moment donné, en fait, pousse. Quoi. Ça ne prend pas forcément la forme d'une méditation, de pleine conscience, etc. Mais vous voyez, en fait, t'arrêtes quoi. T'arrêtes de corriger tes copies, je sais pas pour moi, ou d'être sur internet, ou d'être sur ton écran à construire ton cours, tu dis bon. Voilà. Et finalement, ça serait peut-être ça un stoïcisme du 21e siècle. Ça serait un stoïcisme qui nous inviterait par-delà finalement tous les dispositifs techniques et sociaux et toutes les injonctions à réagir, surréagir, à travailler, etc. Par-delà tout cela. Essayer de nouveau de se réapproprier son environnement naturel, se réapproprier son environnement social, les relations avec ses proches, pouvoir parler à ses proches, pouvoir dire ce qu'on pense à ses proches, pouvoir se livrer à ses proches, avoir le courage finalement de cette confidence qu'on a plutôt tendance à la garder pour soi et à dire bon, j'en parlerai un jour peut-être ou pas. D'accord. On va parler de la liste de courses. Donc raisonner avec son environnement naturel, raisonner avec son environnement social, raisonner avec son propre corps, raisonner avec soi-même, pour finalement reconquérir une liberté, reconquérir une forme de sérénité, sans, à mon avis, c'est l'avantage peut-être de cette pensée moderne, sans s'isoler, sans se séparer des autres. La résonance, c'est ce qui me relie. Je suis un être social, je suis un être social, je suis un vivant parmi les vivants, d'abord. Je suis comme un ver de compost. Je suis un vivant parmi les vivants, je suis un être social, je suis le fils d'eux, le père d'eux, le frère d'eux, le collègue d'eux, et je suis un être humain avec un corps dont je sais qu'un jour il va perdre dans sa puissance jusqu'à l'éternité. Et c'est ça, raisonner, finalement, c'est se reconnecter à l'autre, c'était votre thématique, avec un grand A, c'est se reconnecter à l'autre pour mieux se retrouver soi-même. Et à mon avis, c'est peut-être ça, le stoïcisme de l'autre. J'ai beaucoup parlé, maintenant on va pouvoir...
Alors, on vous propose de changer d'étage, et l'association aura le plaisir de vous montrer un cours qui vous permettra de continuer.